Nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Paul est amené à Rome pour être jugé là-bas et il est dans un navire. Mais le temps n'était pas bon. Et au verset 9, c'est écrit ceci, Actes 27, 9. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin qu'il passe l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Alors, Paul avertit le chef, le centenier qui était là, le chef des policiers qui était là, pour leur dire à tous que la navigation risque d'être dangereuse. Autant rester à cet endroit-là. Mais il nous est dit que, au verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Donc c'est le centenier qui avait la décision. Mais c'est le navire appartenait à quelqu'un, donc lui, il avait sûrement loué le navire. Et il y avait aussi un pilote. Et Paul dit que c'est mieux de s'en aller. C'est mieux de rester plutôt. Les autres ont été d'un avis contraire et le centenier a écouté le pilote et le patron au lieu d'écouter Paul. Alors, il y a un petit vent qui est venu, puisque les navires voyageaient à la voile. Ça a permis qu'ils se déplacent. Verset 14, « Mais bientôt un vent impétueux, qu'on appelle Euraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île, nommé Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Sirte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. » Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Voilà, finalement, les gens se rendent compte qu'ils ont pris la mauvaise décision. Le vent était impétueux. Le navire n'était plus maîtrisé. C'était devenu de plus en plus difficile. Et en ce moment-là, Paul intervient pour dire, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas perturbés. Dieu, l'ange du Dieu que je sers, est venu me voir pour me dire, on va relire ce que l'ange lui a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Donc l'ange lui dit, Dieu te donne tout ce qui navigue avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous ceux qui naviguent avec toi sont sous ton autorité. Alors notre prédication, c'est qui est le chef? Qui est le patron? Lorsqu'on lit cet extrait, on voit que il y avait déjà un patron du navire, mais il y avait aussi un chef. C'était le centenier qui avait loué le navire, donc c'était lui le chef. Mais il y avait aussi un expert, qu'on peut appeler patron technicien, c'était le pilote. Mais il y avait aussi le vrai patron. Le vrai patron, c'est Dieu, mais Dieu a envoyé son serviteur Paul pour le représenter. Donc le vrai patron là, c'était Paul. Mais à vue humaine, on pouvait croire que c'était le centenier, que c'était le patron du navire, que c'était le pilote. Mais en réalité, en esprit, c'était Paul qui était le véritable patron. Paul, serviteur de Dieu. Donc notre question, c'est qui est le véritable chef? Qui est le véritable patron? Et les extraits bibliques que nous allons lire vont à chaque fois nous montrer qui est le véritable patron. Nous continuons à lire. Au verset 30. Donc le bateau est en train de bouger. Le bateau est agité et il commence à vouloir échouer sur une île. Dans cette agitation-là, il faut savoir que dans le bateau, il y avait des prisonniers. Il y avait aussi des matelots. Et dans cette agitation, il y a des gens... Comme il y a un proverbe du monde qui dit « Chacun pour soi, Dieu pour tous ». Donc devant ce danger-là, il y a des gens qui veulent quitter le navire par leurs propres moyens. Verset 30. « Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans la tente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et aucun de vos cheveux ne se perdra. » Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Quand ils eurent mangé suffisamment, ils allégèrent le navire en jetant le blé à la mer. Et puis, quand on lit la suite, tous finalement furent sauvés, comme Paul l'avait prédit. Alors, qui était le patron? C'était bien Paul. Les gens ont mis du temps à le comprendre. Mais quand ils ont compris, ils ont obéi. Quand Paul a dit que personne ne se jette à l'eau par ses propres moyens ou bien utilise la chaloupe. Qu'est-ce qu'il a fait faire le centenier? Il a fait couper les cordes de la chaloupe, c'est-à-dire leur embarcation de sauvetage. Donc, par obéissance à Paul, parce qu'ils ont compris que c'est Paul qui était le patron, parce que Paul servait le véritable Dieu, par obéissance à Paul, ils ont coupé les cordes et finalement, ils étaient sauvés tous, sains et saufs. Ils ont marché sur la terre ferme. Qui est le véritable chef? Le véritable chef, le véritable patron, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu et qui sert Dieu. Nous lisons dans Matthieu 28, 18. Matthieu 28. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus, avant de s'en aller, il dit à ses disciples, « Tout pouvoir m'est donné. » Mais pourquoi il parle de lui alors que lui, il s'en va? Parce qu'il leur a promis qu'il sera avec, par la suite, il leur promet qu'il sera avec eux tous les jours. Alors il dit, « Mais moi, j'ai tous les pouvoirs. » C'est comme si, bien aimé, nous faisions un voyage et au milieu de nous, les gens s'inquiètent, « Mais là-bas, on va loger où? Là-bas, on va manger quoi? » Et puis il y a un parmi nous qui dit, « Mais moi, j'ai tout. » On m'a donné $1 million pour ce voyage. Automatiquement, les gens qui sont autour se tranquillisent parce qu'ils savent qu'ils seront avec celui qui a 1 million. Automatiquement, ils se tranquillisent. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. Maintenant, en quelque sorte, je vous le donne, ce pouvoir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés, c'est qui le patron, c'est qui le chef? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des réactions devant les situations. Je dis les gens, c'est-à-dire des gens qui se disent chrétiens. On a l'impression que c'est le diable qui est le chef. On a l'impression que c'est les politiciens qui sont le chef. On a l'impression que c'est les riches qui sont les chefs. On a l'impression que c'est l'argent qui est le chef. Ah, mais si j'avais de l'argent, je pourrais faire ceci. Si mon cousin était président, je pouvais faire cela. Mais Jésus nous dit, tout pouvoir m'est donné, je vous donne ce pouvoir. Vous êtes des chefs, vous êtes des patrons. C'est vous qui avez le royaume. Dans Luc 12, il dit, petit troupeau, votre Dieu vous confie le royaume. Confier le royaume, c'est-à-dire c'est vous qui régnez sur terre. Mais il est vrai qu'humainement parlant, visiblement parlant, on a l'impression que c'est celui qui est riche qui règne parce qu'il s'achète tout ce qu'il veut. On a l'impression que c'est celui qui est président de la République qui règne parce que c'est celui qui décide tout ce qui se passe. Mais Dieu nous dit, c'est nous qui régnons parce que c'est à nous qu'il a confié le royaume. Et le royaume de Dieu, c'est partout où se trouve le règne de Dieu. Or, le règne de Dieu se trouve aussi sur la terre. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est Dieu qui a le dernier mot. Mais en apparence, c'est les humains qui agissent. Mais en réalité, c'est Dieu qui a le contrôle. Rien n'arrive sur la terre sans qu'il ne permette. Maintenant, il nous dit dans Luc 12, on va lire Luc 12, « Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. » C'est sa décision. Luc 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Mais Jésus dit, mais comment exercer le règne de Dieu? C'est en étant dépouillé par rapport à la logique des humains. Il dit, mais vendez, parce que qu'est-ce qui fait la puissance d'un homme? Ce sont ses richesses, c'est sa position d'autorité. C'est ça qui fait sa puissance. Et Jésus dit, mais vous, vos richesses, vendez-les, ne cherchez pas à régner par les richesses. Combien de fois on entend des chrétiens dire, mais c'est l'argent qui nous manque. Si on avait l'argent, on aurait fait ceci, cela, ceci, cela. Et nous-mêmes, on l'a dit, on se repent devant le Seigneur. Si j'avais l'argent, si on avait l'argent, on allait faire ceci, on allait faire cela. Et le Seigneur nous dit, non, vendez. Vous, vous n'avez pas à régner par l'argent. Vous n'avez pas à régner par votre position de chef. Il dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le plus petit. Voilà comment vous, vous allez régner. Parce que qui règne? C'est Dieu. Il est écrit, même pas un moineau. Quand un moineau tombe, Dieu connaît. Et quand Paul dit à ses amis-là qui étaient dans le bateau, 276 personnes, il dit, mais vos cheveux seront gardés. L'ange du Dieu qui règne sur l'univers m'a dit qu'il n'y aura pas de souci, mais que personne ne s'échappe par ses propres moyens. Écoutez-moi cette fois-ci. Vous n'avez pas écouté la première fois. Maintenant, vous comprenez que je suis le représentant de celui qui règne. Donc, écoutez-moi cette fois-ci, que personne ne s'échappe, puisqu'on va être sauvés. Mais si quelqu'un s'échappe, nous tous, nous serons plus sauvés. Donc, écoutez-moi. Et ils ont écouté parce qu'ils avaient compris. Bien-aimés, aujourd'hui, tu dois réaliser qui tu es dans le Seigneur, avec le Seigneur. Qui sommes-nous? Qui est le chef? Qui est le patron? Le patron, ce n'est pas celui qui a l'apparence de pouvoir, de puissance, l'apparence d'éloquence. Le patron, c'est celui qui est avec Dieu et qui a tout lâché pour suivre Dieu. C'est celui-là qui règne. Et Dieu nous appelle à régner. Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner le royaume. Débarrassez-vous de tout ce qui fait la puissance d'un homme sur terre. Si tu es pasteur, comporte-toi en simple chrétien. Tout ce qui peut faire la puissance d'un homme, débarrasse-toi de ça. Quand il a envoyé les disciples, il a dit, ne prenez ni or ni argent, allez comme ça. Parce que si vous prenez de l'or et de l'argent, cet or et de l'argent risque de devenir votre force. Mais si vous voulez que le royaume de Dieu se manifeste dans ce que vous faites, hein, débarrassez-vous de la force de l'homme. Soyez simple. Comptez sur moi. Comptez sur Dieu. Bien sûr, ce n'est pas le discours qu'on donne aux États-Unis. Aux États-Unis, ce qui est prêché, c'est qu'il faut que les chrétiens soient riches et de postes politiques. Car, dit-on, il est écrit dans Ecclésiaste 10, 19, l'argent répond à tout. Mais quand Salomon dit l'argent répond à tout, il veut dire que quand quelqu'un a l'argent, il s'achète tout ce qu'il veut. C'est un constat par rapport à ce qui se passe sur la terre. Il n'a pas dit que c'est la façon d'agir de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit par son esprit. Dieu est le Tout-Puissant. Il n'a pas besoin d'utiliser l'argent. Il règne déjà. Il est roi. Il est Tout-Puissant. Il donne un ordre. Et l'ordre s'accomplit. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. À chaque fois, on va se poser la question, mais qui est le chef? Et la réponse est dans la Bible. Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Et ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, Ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Jésus arrive quelque part à Capernaum et il y a un centenier romain, chef de 100 personnes, 100 soldats, qui avait un problème, son serviteur était malade. Il envoie des gens dire à Jésus, viens guérir mon serviteur. Et Jésus s'avançait. Et les gens qui viennent parler à Jésus disent, mais c'est un homme puissant, c'est lui le chef ici, militaire. Mais c'est aussi un homme bon et riche. D'ailleurs, c'est lui qui a financé la construction de notre synagogue. Jésus a pitié de cet homme et il s'avance vers sa maison pour guérir son serviteur. Mais le centenier, dans la révélation du Saint-Esprit, il vient, il envoie d'autres personnes dire à Jésus, mais c'est qui le chef? Qui est le chef, Jésus? Est-ce toi ou c'est moi? Moi, je suis chef, mais je suis chef de mes soldats. Je les envoie et ils obéissent. Mais toi, Jésus, tu es chef de l'univers. Tu n'as pas besoin de venir t'humilier auprès d'un chef de quelques 100 soldats. Là où tu es le chef de l'univers. Tu peux donner un ordre aux molécules, donner un ordre aux microbes, donner un ordre à la maladie et tout cela va t'obéir. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, mais oui, mais il a tout compris ce monsieur. C'est ce que le Seigneur veut qu'on comprenne aujourd'hui. Il a le règne de l'univers dans sa main. C'est Jésus qui règne. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le monsieur a compris. Il a dit, dis un mot et les choses vont changer. Bien sûr, beaucoup vont dire, mais oui, mais on a l'habitude de prier. Mais ma situation ne change pas. Pourtant, mais il est écrit dans Matthieu 11, 12, le royaume de Dieu appartient aux violents, aux gens qui ont vraiment compris et qui vont insister parce qu'ils sont sûrs. Il est sûr que l'appareil a vu le diamant sous sa maison. Il va creuser, même s'il ne trouve pas après 10 mètres. Il continue parce qu'on lui a dit qu'il y a le diamant en dessous. Il est sûr de ça. Il ne lâche pas. Mais ceux qui arrêtent en cours de route, ceux qui n'étaient pas sûrs. Le centenier a dit, dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je donne des instructions aux soldats, ils obéissent. Mais toi, tu es le président de l'univers, le roi de l'univers. Tu peux commander à ma situation, tu peux commander au problème de mon serviteur et mon serviteur sera guéri. Qui était le chef? C'était Jésus. Mais en apparence, c'était le centenier. Quand les gens viennent voir Jésus, c'est parce qu'ils se disent, aïe, le patron financier, le chef politique a un problème. Et c'est un chef qui nous a souvent aidés. On va voir notre frère Jésus pour lui parler du chef. Mais le chef lui-même dit à Jésus, c'est toi qui es le chef, ce n'est pas moi. Moi, je ne commande que quelques soldats. Mais toi, tu commandes l'univers. Jésus est le chef de l'univers. Qui est le chef? C'est Dieu qui est le chef. Mais il nous a laissé maintenant l'autorité sur la terre. Mais cette autorité est couverte par un vase d'argile. Notre être humain, qui est si faible, contient ce trésor, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 4, 7. Et devant cette apparence, les gens pensent qu'on est faible, qu'on est sans force, sans autorité, et nous-mêmes, nous finissons par le croire. Comme les enfants d'Israël, quand on leur a dit « Allez conquérir la terre promise », ils ont dit, mais nous avons, les espions qui sont partis, ils ont dit, mais nous avons vu
Ces gens-là, c'est des géants. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles et à nos propres yeux. Je crois qu'ils se sont imaginés être des géants et voir des gens comme eux. Ils se sont dit, mais ils doivent nous voir comme des sauterelles. Et donc, ils ont pris eux-mêmes la conclusion qu'ils étaient comme des sauterelles aux yeux de ces personnes-là. C'est des gens qui avaient oublié qu'on leur avait donné le règne. Et Josué et Caleb ont dit, mais non, mais Dieu nous a délivrés d'Égypte. Ce n'est pas Jéricho qui va nous résister. Ce n'est pas Canaan qui va nous résister. Le règne appartient à notre Dieu. Et ce règne est sur nous, son peuple. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le règne appartient à Dieu et ce règne est sur Dieu. Le règne, c'est le droit et la puissance de diriger, de gouverner. Ça appartient à notre Dieu. Mais Dieu est sur nous. Il est assis sur nous. Il nous fait participer à ce règne-là. C'est pourquoi il dit, petit troupeau, on vous a confié le royaume. Nous lisons dans 2 Rois au chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, 2 Rois chapitre 5, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre et il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ?» Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Mais écoutez maintenant la réaction de l'homme de Dieu. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas Naaman. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice.
il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen. Qui était le chef en apparence? C'était Naaman, le général, avec toute sa suite. Mais il avait un problème, il était lépreux. Ce qui, en réalité, ne faisait plus de lui un chef, parce que c'était un chef lépreux. Il a un problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens autour de nous paraissent être des chefs parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont un poste politique, parce qu'ils ont du succès, parce qu'ils sont forts physiquement, parce qu'ils sont beaux aussi, ils brillent. Mais en réalité, quand vous fouillez bien dans leur vie, ils ont un problème. J'ai vu un article sur la mort de Whitney Houston, mais quand vous la voyez monter, donc le sommet c'était en 91 avec le film qu'il avait fait avec Kevin Costner, et c'était, on avait l'impression qu'elle avait touché le firmament, comme on dit, elle avait touché le ciel. Mais la chute se préparait à venir. Et elle est morte de la manière la plus sale. C'est pour nous dire que même si quelqu'un semble puissant, brillant, populaire, il a un problème. C'est le mal qui est en lui. Il n'est pas chef. Le chef, c'est celui qui est au-dessus du diable. Le chef, c'est celui qui a vaincu le péché. Et c'est Jésus. Le chef, c'est celui qui croit en Jésus et qui a confié sa vie en Jésus. Et Naaman qui venait avec toute sa troupe, toute sa suite, avec ses apparats de général, il a rencontré le véritable chef. Il s'était dit que je suis le chef, le prophète viendra me voir. Le prophète lui a fait comprendre que ce n'est pas toi qui es le chef, c'est moi qui suis le chef. Va te laver cette fois, c'est toi qui as besoin de Dieu. Le monsieur s'en est retourné dans la colère. Mais pour qui se prend-il? Mais ses serviteurs lui ont dit, mais chef, père, maintenant, cet homme-là ne t'a pas demandé quelque chose de compliqué, que tu t'humilies seulement, que tu te laves cette fois. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ça? L'homme a compris que son problème, c'était l'orgueil. Vous savez, l'orgueil ne fait pas de nous quelqu'un de fort, mais l'orgueil, c'est comme une drogue. Vous savez qu'il y a certaines drogues, quand on les prend, on a des hallucinations. On se croit plus grand qu'un éléphant. On se croit très lourd. Il y en a parfois qui ont l'impression qu'ils ont touché le plafond. Donc, ils voient sa taille. On est dans cette... Vous voyez comment ce plafond est haut. Il y a des gens, quand ils prennent des drogues, ils ont l'impression que leur tête arrive à toucher le plafond. Et il peut même marcher comme ça, courbé dans cette salle, parce qu'il croit qu'il touche. Mais c'est l'hallucination. Et l'orgueil donne des hallucinations. L'orgueil fait croire à quelqu'un qu'il est fort, il est puissant. Dernièrement, même Mike Tyson vient d'avouer que pendant qu'il gagnait, il se dopait. Et comment il a échappé au test de dopage, il amenait les urines de quelqu'un d'autre et il mettait à la place. Mais qui n'a pas vanté Mike Tyson? L'homme a toujours un problème, même s'il donne l'impression d'être fort, puissant, il a un problème, c'est le péché, c'est le mal, ça le détruit. Et on voit ça à travers la vieillesse, on voit ça à travers les situations de la vie. Qu'est-ce qui a détruit Whitney Houston? C'est un homme, un garçon plus jeune qu'elle de 8 ans, a ruiné sa vie. Alors qu'elle, elle avait fait face à des gens beaucoup plus matures, des producteurs, des organisateurs. Mais il n'avait pas pu la dominer, mais c'est un homme moins âgé qu'elle, de 8 ans, voilà, qui a détruit sa vie. L'homme est faible, même s'il donne l'impression d'être fort. Où a fini l'homme Manodou? Un petit copain a détruit sa vie. L'homme est faible. Mais l'orgueil lui donne l'impression qu'il est fort. Mais Dieu nous apprend aujourd'hui que le fort, c'est celui qui est avec lui. Et qui lâche tout, c'est lui le fort. Ce n'est ni l'argent, ni la force physique, ni l'impression qu'on peut donner. C'est celui qui est avec Dieu, parce que tout est dans les mains de Dieu. C'est lui qui gère tout. Le règne lui appartient. Petit troupeau, votre Dieu a choisi de vous donner maintenant ce règne-là. Ceux qui sont dans le Seigneur, ils sont dans ce règne-là. Notre problème, c'est que nous voulons que ce règne se manifeste comme... Nous arrivons au deuxième point. Ça se manifeste dans le monde. Le deuxième point, c'est celui-là. Mais Dieu ne manifeste son règne par d'autres moyens, par la prière, par d'autres moyens, par la parole, par d'autres moyens, par le fruit du Saint-Esprit, par d'autres moyens, par les miracles qu'il peut opérer. Dieu manifeste son règne, bref, par son esprit. C'est écrit dans Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la force, ni la violence, mais c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu agit et contrôle tout. C'est ça le règne de Dieu. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons nous habituer, un, au fait que c'est nous les chefs. Le monde, la vie du monde dépend de nous. La vie de nos familles dépend de nous. Mais notre problème, on se dit, mais je n'ai pas l'argent pour envoyer à mes frères. Je n'ai pas une telle influence pour leur donner du travail. Je ne sais pas quoi faire, mais on ne pense qu'à des choses matérielles. On ne pense qu'à à la manière des humains de régler les choses. On a oublié que nous avons l'autorité par la prière. Nous avons l'autorité par la parole. Mais il faut qu'on s'en souvienne et qu'on entre dans cette autorité. Non seulement on a l'autorité, on a la responsabilité. Petit troupeau, votre Dieu vous confie le royaume. Il ne faut pas penser que c'est le président français Hollande qui va changer la France, qui va améliorer la France. C'est à toi qu'a été confié le royaume par tes prières, ton comportement, l'évangélisation, le travail que Dieu te confie. Ben c'est dans ce travail-là que se trouve le salut de l'humanité. C'est ainsi que Paul, dans le bateau, Dieu lui a dit clairement, les gens qui sont dans ce bateau, je te les donne. Leur vie est entre tes mains. Il suffisait que Paul dise, bon, je me tais, et que les matelots quittent le bateau. Tous allaient périr. Mais Paul avait reçu le message de l'ange de Dieu, comme quoi c'est lui qui dirige désormais. Et il donne l'instruction. Il dit, suivez-moi maintenant. Vous ne m'avez pas écouté la première fois, maintenant écoutez-moi. Parce que l'ange de mon Dieu m'a parlé. Donc pour que vous soyez sauvés, il faut m'écouter maintenant. Et ils ont eu la sagesse d'écouter et ils étaient sauvés. Et quand Paul est sorti du bateau, il rassemblait des branchages pour se chauffer. Et il y a un serpent qui est sorti des branches pour le mordre. Et les gens attendaient qu'il meure. Et quand il n'est pas mort, les gens ont dit, mais c'est un dieu. Paul a dit, ce n'est pas moi qui suis Dieu, mais je suis dans le règne de Dieu. Et dans le règne de Dieu, rien ne peut m'atteindre. Dans sa volonté, rien ne peut m'atteindre. Donc, bien-aimés, nous avons des armes. Nous avons notre armure. Nous avons notre arsenal. C'est la prière. C'est la parole de Dieu. C'est la simplicité. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est les dons du Saint-Esprit. C'est les miracles du Saint-Esprit. C'est ça nos armes. Ne cherchons pas à dominer, à régner avec les armes du monde, c'est-à-dire l'argent, l'apparence physique, la puissance politique, parler plus fort que l'autre. Régnons avec les armes du Seigneur. N'écoutons pas les faux prédicateurs américains qui veulent que nous régnions avec l'argent. C'est faux. Quand le Seigneur a envoyé les disciples dans Luc, il leur dit, ne prenez pas de l'argent. Et dans Luc 22, quand ils sont revenus, il a dit, mais quand je vous avais dit de ne pas prendre l'argent, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit, non, on n'a pas manqué de quoi que ce soit. Ce n'est pas par l'argent que nous allons régner. C'est par la prière. Maintenant, si Dieu décide de nous donner l'argent, ça ne sera qu'un instrument. Si Dieu décide de nous donner un poste politique, ça ne sera qu'un instrument. Mais notre règne, c'est par la prière. Vous savez, il y a un homme qui était un peu simple d'esprit, mais qui était chrétien. Et il habitait un village en Chine, et il était le seul à être chrétien dans ce village-là. Et pendant, lui, il priait en public, pendant qu'il faisait son chant, il priait en public. Et ça augmentait la logique, l'effet comme quoi il était simple d'esprit. Aux yeux des gens, ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils prient? Ils prient quoi? Ils prient quel Dieu? Parce qu'ils voyaient bien qu'ils ne priaient pas leur Dieu à eux, mais ils priaient un autre Dieu. Mais un jour, cet homme est mort. Et quand il est mort, la première année, il y a eu des intempéries qui ont gâché la récolte dans le village. La deuxième année, il y a eu des problèmes de mort. La troisième année, il y a eu tout. Chaque année, il y avait des événements négatifs. C'est là que ces gens-là ont compris que c'est l'absence de cet homme-là qui entraîne tous ces événements négatifs dans le village. Alors ils ont enquêté pour savoir, cet homme priait, quel Dieu qui faisait qu'ils n'avaient pas tous ces problèmes-là qu'ils commencent à rencontrer dans le village. Et ils ont rencontré la Bible, et ils ont, par la Bible, rencontré Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et la vie du village avait changé. Mais c'était un homme pauvre, simple d'esprit, mais qui avait avec lui le règne de Dieu. Et avec le règne de Dieu, il dirigeait le village à travers ses prières. Seigneur, fais en sorte que la récolte soit bonne. Fais en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Et donc, le village était bon à vivre. Ésaïe 58, tu rendras le terrain habitable. Le village était bon à vivre. Proverbe 11:11, une ville prospère par la bénédiction des hommes droits. Et le terrain devenait bon à vivre parce que cet homme-là priait, il faisait le travail de Dieu. Mais c'était un homme simple d'esprit, un homme négligé par la société. Mais c'était lui le véritable dirigeant. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, moi je respecte beaucoup les chrétiens. Je n'aime pas avoir de problème avec les chrétiens. Je sais qu'ils sont des gens qui règnent sur la terre. Si j'ai un problème avec un chrétien, je préfère lui demander pardon très vite. Parce qu'il a l'autorité de Dieu. Il a le règne sur ses épaules. Même si ça n'y paraît pas. Mais aujourd'hui, nous devons prendre conscience de cela. Nous avons le règne sur nos épaules. Dieu nous a donné la responsabilité de l'univers. La responsabilité qu'il avait donnée à Adam, il nous donne. Nous devons user de la parole. Et user de la prière. Au nom de Jésus. Et nous verrons les choses changer autour de nous. Dieu est tout puissant. Nous devons prendre conscience que nous n'avons pas à nous plaindre. Ah, tel enfant est impoli, il ne change pas. Tel parent est mauvais, tel cousin. Et on passe notre temps à dire, s'il était bon, on aurait telle chose. Si un tel était bien, on aurait telle autre chose. Alors que c'est nous qui avons la responsabilité de tout ce changement-là. Et nous, on dit, mais si un tel pouvait intervenir. Si un tel pouvait, non, mais la responsabilité, c'est toi qui, par tes prières, par la parole, par l'obéissance à Dieu, par le fruit de l'Esprit, va faire que toutes ces choses-là changent. Ne cherche pas la responsabilité ailleurs. C'est toi qui es responsable. Entre dans cela. Entre dans ton rôle. Et tu verras, les choses changeront. Ne te dis pas, si je pouvais être riche, je ferais telle chose pour Dieu. Dieu te dit, c'est maintenant que tu peux faire. Tu n'as pas besoin d'avoir telle chose, telle autre chose. Tu peux faire quelque chose. Donc le deuxième point, c'était les armes que Dieu nous donne. La prière, le fruit de l'esprit, la parole. Tout ce que nous savons déjà. Utilisons-les, ne nous attendons pas aux autres armes. Et n'ayons peur de personne. N'ayons peur d'aucune situation. Parce que le règne nous appartient. Soyons à l'écoute de Dieu. C'est lui qui nous dira ce qu'on doit faire dans telle ou telle situation. Sans aucune crainte. N'ayons pas peur d'un homme, n'ayons pas peur d'une femme. Car le règne est avec nous. N'ayons pas peur de l'avenir. Car Dieu est avec nous. Dieu est pour nous un abri, un refuge. Un soutien qui ne manque pas au jour de la détresse. Et dans le même psaume, le psaume 46, au verset 10 à 11, il dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu et je domine sur les nations. » Maintenant, cette domination, il a mis ça sur nos épaules. Mais pourquoi nous expérimentons pas ce règne-là? D'abord parce que nous ne sommes pas conscients de la responsabilité qui nous est échue. Nous ne sommes pas conscients de l'autorité qui nous est échue. Et nous, deuxièmement, nous-mêmes, nous ne laissons pas Dieu régner dans nos vies. Comment Dieu peut-il régner autour de nous s'il ne règne pas en nous-mêmes? Et c'est normal que nous ne prenions pas autorité sur les démons. C'est normal que nous ne prenions pas autorité sur les événements de la vie. Parce que Dieu ne règne pas dans notre propre vie. Nous ne sentons pas cette liberté-là. Parce que le règne de Dieu n'est pas sur nous-mêmes. Nous n'obéissons pas à Dieu, nous n'obéissons pas aux autorités, nous n'obéissons pas à la parole. Nous n'avons pas la foi, parce que la foi, c'est le pire de l'incrédulité, le manque de foi, c'est le pire de péché. Nous n'avons pas la foi. Et avec tout ça, nous nous sentons démunis face aux problèmes de la vie, face à tout ce qui nous entoure, face aux déceptions, parce que nous n'avons pas nous-mêmes laissé Dieu régner en nous. C'est pourquoi nous ne nous ressentons pas non plus la force de régner à sa place dans l'univers. Mais celui qui sait qu'il a tout laissé à Dieu. Vous savez, un moment au Maroc, quand je me suis converti, je disais, Seigneur, mais pourquoi dans notre église, il n'y a pas de miracle? Et on m'a donné clairement par le Saint-Esprit le passage de Luc 5, 11. Ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Quand ils ont fait la pêche miraculeuse, ils ont tout laissé, tout leur poisson, ils ont laissé et ils ont suivi Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas tout laissé pour suivre Jésus. Ils marchent selon leur propre projet. Je vais avoir 2 maisons, je vais avoir 5 voitures. Ils ne marchent pas selon les projets du Seigneur. Ils se disent pas, mais qu'est-ce qu'attend le Seigneur de moi? Le Seigneur ne règne pas. Bien, mais quand on dit que le Seigneur doit régner, ça ne veut pas dire forcément que ceux qui vivent sans péché, c'est en eux que le Seigneur règne. Non, on peut vivre sans péché apparent, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne tombe pas dans l'impudicité. Mais en réalité, on construit sa vie pour soi-même. On ne construit pas sa vie dans l'objectif de servir Dieu, mais on construit sa vie pour soi-même. Et Dieu n'est pas dans ce genre de personnes. Il ne règne pas dans ce genre de personnes. Et ce genre de personnes n'ont pas autorité sur les événements autour d'eux parce qu'ils ont des projets humains, des projets terrestres. Il faut que Dieu règne dans nos vies. Nous ayons ses projets à lui en priorité. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Que Dieu soit votre chef d'abord. Il prenne tout le contrôle, que vos projets soient les projets du Seigneur. Et Dieu s'occupera du reste. Pour finir, je veux dire, bien-aimé, la réalité c'est quoi? En apparence, les forces négatives. En apparence, ces forces des ténèbres et les humains donnent l'impression d'être les chefs de la terre, de régner. Non, ils règnent sur une partie que Dieu permet, qui domine. Comme c'est écrit, le monde entier est dominé par le diable. Quand on dit le monde entier, il ne s'agit pas de nous les enfants de Dieu, il s'agit du reste. Mais ce reste-là, parce qu'il est plus nombreux, ça donne l'impression que même ça donne l'impression que le diable nous limite même nous-mêmes. C'est faux. Le diable ne peut pas nous limiter. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est faux, il ne peut pas régner sur nous. C'est faux, il ne peut pas nous freiner. Tous les freins apparents ne sont que la volonté de Dieu pour nous. Nous ne devons pas être déstabilisés par ça. Dieu est en train de construire quelque chose. Nous devons garder la foi malgré les freins apparents. Nous devons garder la foi que tout est sous contrôle. Vous savez, quand Élie a demandé à la femme comment ça va, elle a dit tout va bien alors que son fils venait de mourir. Mais elle savait que tout était sous contrôle. Quand on envoie Daniel dans la fosse au lion, il va la tête haute parce qu'il sait que tout est sous contrôle. Il ne pensait pas forcément être sauvé des lions. Mais il sait que tout est sous contrôle. Ce n'est pas une défaite. Ce n'est pas le diable qui a gagné. En apparence, nos frères et sœurs sont persécutés en Égypte, sont persécutés en Turquie, sont persécutés en Chine. Ils sont dans les prisons. En apparence, le monde des ténèbres semble forcé, faux. Tout ça est permis parce que Dieu a des objectifs pour nous et pour ce monde. Tout est sous contrôle. Et c'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. En apparence, nous sommes faibles. Nous nous sentons tentés par divers péchés. En apparence. Et beaucoup ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur de tomber plus tard. Mais ce n'est qu'une apparence. La réalité, c'est que la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a donné le dessus sur la loi du péché et de la mort. Mais ça nécessite qu'on croie. Je veux dire, bien-aimé, qu'en apparence, nous n'avons qu'un petit territoire. En apparence, c'est les dictateurs qui dirigent le monde. C'est les francs-maçons qui dirigent le monde. En apparence. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui?
Le petit territoire que tu sembles avoir commence déjà par travailler pour voir la gloire de Dieu dans ce petit territoire-là. Est-ce que le président de la République dîne avec vous le soir? Est-ce qu'il connaît même ton adresse? Non. Ne dis pas que si tu souffres dans ta maison, c'est à cause du président de la République. Commence d'abord par gagner ta maison. Commence d'abord par établir le règne de Dieu dans ta maison. Avant d'établir le règne de Dieu dans cette salle, établis le règne de Dieu dans ta maison. Commence par toi-même. Le petit territoire que Dieu te donne, tu peux voir la gloire de Dieu dans ça. Je veux dire à la manière des humains, le petit territoire que les gens mauvais nous laissent, mais en réalité, ce n'est pas eux qui nous laissent, c'est Dieu qui nous laisse ça. Mais utilisons ce petit territoire pour voir la gloire de Dieu. Nous verrons que les limites de ces territoires vont être de plus en plus repoussées. Au début, c'était 10 mètres carrés. Après, le territoire qui nous semble nous être resté, ça va devenir 20 mètres carrés. Ça va augmenter 30, 40, parce qu'on a su que faire dans 10 mètres carrés. Dieu nous confie 20 mètres carrés, ensuite 30 mètres carrés. Et je dis à la manière des humains, puisque c'est ce que nous disions autrefois, c'est ce que nous pensions. Ah, il n'y a rien à faire, tout est bloqué. Bien aimé, quand moi je suis parti au Congo, les gens m'ont dit, mais il ne faut même pas essayer à Télé-Congo, il y a la Camorra là-bas, la mafia. Donc c'est des journalistes escrocs, menteurs, tu vas souffrir, rien ne va se faire. Effectivement, dans les premières émissions, on a dû souffrir parce qu'on avait payé, mais on ne nous faisait pas passer. Il fallait prier, il fallait lutter, il fallait crier. Un jour, Dieu m'a dit, au lieu que ton objectif soit de parler à la télévision pour tous les Congolais, que ton objectif soit de sauver certains journalistes. Si certains journalistes sont sauvés, eux-mêmes se chargeront de transmettre la nouvelle. Bien-aimés, on a changé la façon de prier. Aujourd'hui, quand je vais, je fais des émissions, avec un journaliste, c'est payant, mais avec l'autre, c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Parce qu'il a compris ce que je disais. Il a compris que la véritable parole, c'est ce que nous annoncions. C'était la parole de Jésus, c'était la Bible. Et il est d'accord avec ça. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui met ces émissions-là. Gratuitement, bien-aimés. Commençons par le petit territoire. Dieu m'a dit, au lieu de viser tout le Congo, vise d'abord la chaîne. Vise d'abord les gens que tu côtoies là. Vise d'abord eux, au lieu de viser tout le Congo. Au lieu de viser toute la France, vise les gens que tu côtoies. La famille que tu côtoies, ton entourage. C'est ça, bien-aimé. Mais il y en a qui veulent parfois que d'autres se convertissent, eux-mêmes ne sont pas vraiment convertis. Ah, vraiment, mon frère, mon fils, mon cousin, c'est un vrai païen. Mais lui-même, quand tu surveilles sa vie chrétienne, c'est presque un païen aussi. Parce qu'en apparence, il ne vole pas, il ne ment pas, il trompe. En apparence, il semble être comme tous les chrétiens. Mais quand tu fouilles bien, tu te rends compte que non, Dieu ne règne pas. Ce sont ses projets qui demeurent. Dieu ne règne pas. Alors Dieu veut qu'il règne d'abord chez toi. Ainsi, tu verras sa gloire. Dieu est tout puissant, bien-aimé. Il est tout puissant. Isaac, lisons rapidement de Genèse 26. Parce que c'est un exemple très important pour appuyer ce que je suis en train de dire. Genèse 26. Genèse 26, à partir du verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils étaient, c'est ce qui veut dire contestation, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna, cela veut dire haine, parce que c'était une exagération. Je vous ai déjà donné un puits que moi-même je creusais,
Vous réclamez encore le deuxième, je vous le donne encore. Verset 22. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Isaac a subi l'injustice. Il creuse un premier puits, très intéressant. On vient quereller au sujet de ce puits. Il dit, bon, je vous le laisse. Bien-aimé, Jésus nous a dit, on te prend un manteau, tu donnes le deuxième. Les gens veulent nous embêter. Laissez-les parler. Laissez-les jaser. Laissez-les discuter, polémiquer. Nous faisons ce que nous avons à faire. C'est tout, bien-aimé. Il fait un autre puits. Injustement, on vient encore lui prendre. Il laisse. Il pouvait se battre. Il laisse. Et il fait un troisième puits et personne ne vient le gêner. Ça veut dire quoi? Le petit territoire que Dieu nous donne. Travaillons dans ce petit territoire-là. Ne cherchons pas à trop parler sur les grands territoires que nous espérons. Commençons par le petit territoire-là. Que le règne de Dieu soit manifeste. Isaac n'a pas résisté. Changer de puits, puis un troisième puits, et il avait tout. Vous savez, quand Jésus a multiplié le pain, quand on lui a dit, « Mais Seigneur, il y a beaucoup de gens qui sont là, comment on va les nourrir? Comment on va faire? Il faut les renvoyer. » Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? « Donnez-leur vous-même à manger. » Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Mais la responsabilité des humains, c'est entre vos mains. Vous voulez que qui fasse? Mais pourtant, il savait que lui-même, il allait multiplier les pains. Et il demande, y a-t-il quelque chose? On lui dit 5 pains et 2 poissons. Il les prend et les multiplie. Bien-aimé, le règne s'est manifesté sur 5 pains et 2 poissons. Parce que 5 pains et 2 poissons, devant 5000 personnes, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Donc la logique, notre intelligence veut quoi? Que j'aille manger ça en cachette. Il y a 5000 personnes affamées. Même si je suis bon, je me dis, mais ça ne suffira pas pour tout le monde. Logiquement, personne ne me tiendra à rigueur si je veux manger ça dans une grotte. Parce que dans tous les cas, comment je peux partager à 8000 personnes environ? Mais le monsieur, l'enfant, a été obéissant. Il a dit, je prends ces 5 pains, ces 2 poissons. Même s'il semble inutile, je donne ça à celui qui peut rendre ça utile. Amen. Onésime, qui sait ce que ça veut dire? Onésime. Il y a une épître, une lettre dans la Bible qu'on appelle la lettre à Philémon. Et dans cette lettre-là, il y a un esclave qui s'appelle Onésime. Onésime, ça veut être utile. Et Paul dit, Onésime, autrefois, il était inutile. Il était dans le péché. Mais le jour où je lui ai parlé de Jésus dans la prison, il est devenu utile. Parce que Onésime, c'était l'esclave de Philémon. Et dans son péché, il avait fui en volant, en faisant quelque chose. Et quand il a péché, quand il a volé, on l'a attrapé, on l'a amené en prison. Dans la prison, il rencontre Paul. Paul le convertit à Christ. Et il se retrouve à avoir un ami commun, une connaissance commune, Philémon, le patron d'Onésime. Mais Philémon, c'était aussi un disciple de Paul. Paul écrit à Philémon, il dit à Philémon, je te renvoie Onésime. J'aurais bien voulu qu'il reste avec moi en prison pour me servir. Mais c'est quand même légalement ton esclave. Je te le renvoie, qu'il te serve maintenant en vérité. Avant, il était inutile. Maintenant, il est utile. Voilà, bien-aimé. Si tu estimes que tu es un homme mauvais, tu es un paresseux, tu estimes que tu n'es pas digne de servir Dieu. Tu es comme Onésime. Donne-toi à Dieu. Dis, je viens comme Onésime, inutile, mais toi, tu peux me rendre utile. C'est ça, bien-aimé. 5 pains et 2 poissons, inutile pour 5000 personnes, inutile pour 8000 personnes, mais dans les mains du roi des rois, des seigneurs, rendu utile. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas prier. Mais ce qui compte, c'est ton cœur. Ce n'est pas les paroles, les belles paroles. C'est ton cœur. Viens avec ton cœur dire ce que tu penses à Dieu. Dieu va transformer ces paroles mal agencées avec des verbes à la troisième personne. Toi, tu mets ça à la deuxième personne. Dieu va transformer ça en belle prière pour lui. Et il va t'exaucer. Autrefois inutile, Dieu va rendre les choses utiles. Le Seigneur règne. Et c'est lui le chef. Et il a fait de nous des gens qui régnons aussi. Nous sommes des chefs et des patrons avec d'autres armes, avec d'autres moyens, avec d'autres stratégies de conquête. Mais nos armes sont plus puissantes que les armes du monde. Revêtons notre responsabilité et l'autorité que Dieu nous a confiée. Allons servir Dieu en commençant par le petit territoire qu'on a bien voulu nous laisser. Le territoire qu'on semble facile à conquérir, commençons par le conquérir celui-là avant de penser à d'autres. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous réveilles aujourd'hui par rapport à l'autorité que tu nous as confiée. Merci de nous rappeler que nous sommes un petit troupeau, certes, mais tu nous as confié le royaume. Merci de nous rappeler que nous n'avons pas à nous plaindre des humains comme s'ils sont capables de nous gêner, comme s'ils sont capables de nous empêcher de faire ta volonté. C'est impossible. Que le petit territoire que tu nous as laissé, que les humains ont bien voulu nous laisser en parlant langage humain, que ce petit territoire, nous puissions le fructifier en agriculture intensive et produire du fruit en abondance, comme Isaac. Lorsqu'on le chassait d'un puits, il allait chercher un autre territoire qui était libre et il faisait un autre puits. On le chassait d'un autre puits, il allait chercher un autre territoire qui était libre. Seigneur, si la prison, c'est le territoire où on est bien, on est libre, ben que ce soit là qu'on fructifie tes œuvres, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu es avec nous et aucun mal ne peut nous atteindre. De nous rappeler, Seigneur, que tu gères, que tout est sous contrôle. Merci, Seigneur, de nous rappeler que personne ne peut nous empêcher de faire ta volonté. C'est écrit, si tu es pour nous, qui sera contre nous? Que nous arrêtions d'accuser les présidents de la République, que nous arrêtions d'accuser les politiciens. La responsabilité nous incombe de mettre le sel sur la terre. Que nous arrêtions d'accuser notre mari, notre femme. La responsabilité nous incombe d'améliorer notre environnement en attirant le règne de Dieu dans notre environnement par les armes spirituelles que tu nous as confiées. Ô Seigneur, merci de te manifester. Que nous retrouvions l'autorité que nous avions négligée, la responsabilité que nous avons abandonnée, que nous puissions retrouver cela. Au nom de Jésus-Christ.